D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le psaume 113. Il a 9 versets. Et il commence par louer l'Éternel et il se termine aussi par louer l'Éternel. Et ça fait comme un axe entre disons comme un arc entre le début et la fin. Hein, louer l'Éternel, et puis ça nous montre que, ma foi, l'axe principal de ce psaume, c'est justement la louange. Il y a 3 parties. D'abord, les versets 1, 2, 3, ça, c'est le moteur de notre louange. Et puis ensuite, les versets 4, 5, 6, ça nous dit... Qui est-ce le Dieu que nous louons? Et puis enfin, les versets 7, 8, 9, ça nous dit, ce Dieu que nous louons, comment est-ce qu'il se manifeste? Alors, je vous propose de nous arrêter sur la première partie, hein, le moteur de notre louange, c'est-à-dire, quand on loue, qu'est-ce qui devrait se passer à l'intérieur de nous? Regardez, s'il vous plaît, le premier verset. 113, le verset 1. Je lis, « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. » Alors, ceux à qui ce psaume s'adresse, hein, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Évidemment, à l'époque où ce psaume a été écrit, ça, c'était pas tous les hommes de toutes les nations. C'était seulement Israël. Pour Israël, la louange, elle faisait partie de leur fonction devant Dieu, en tant que peuple mis à part. Toutes les nations alentour, elles faisaient leur propre cuisine. Mais le peuple d'Israël, c'était différent. Lui, son rôle, c'était de louer l'Éternel au milieu des nations. Son rôle, c'était de louer l'Éternel, entre autres. Et ça nous rejoint. Parce que finalement, aujourd'hui, nous, dans l'Église, nous aussi, nous louons le Seigneur au milieu de nos contemporains. La louange, ça fait partie de ces œuvres que le Seigneur a mises devant nous, qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hein, si ça vous dit quelque chose, c'est dans Éphésiens 2, 10. Et ça confirme notre position de serviteur devant Dieu. Et ça fait partie de notre témoignage. Alors maintenant, louer, c'est quoi? Eh bien, dans la langue originale, en hébreu, louer l'Éternel, c'est Alléluia. Oh, Yah, c'est pour l'Éternel. Et puis, Allélu, c'est le verbe louer. Mais en hébreu, le verbe louer, il signifie aussi briller, luire, célébrer. Du coup, louer l'Éternel, ça signifie célébrer la grandeur de l'Éternel et le faire briller devant les autres. Et puis, la fin du verset, louer le nom de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, il ne faut pas comprendre le nom comme on le comprend en français. Hein, juste comme un mot qui désigne une personne. C'est plus que ça. En hébreu, le nom, ça renvoie non seulement à la personne qui le porte, mais aussi à toute son œuvre. Et en Israël, quand on prononçait le nom de l'Éternel, eh ben, c'est comme si on le rendait plus présent avec toute son œuvre. Alors, nous aussi, de nos cultes. Et quand nous louons le Seigneur, eh bien, nous le rendons encore plus présent à nos yeux. Et nous le louons pour ses œuvres. Hein, nous le louons au milieu de nos contemporains, et puis nous proclamons qu'il est grand, et que sa grandeur se voit. Et elle se voit dans ses œuvres. Regardez le verset 2. Je lis, « Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à toujours. » Alors, dans l'Ancien Testament, en hébreu, le verbe « bénir », il a deux sens, comme en français. D'une part, ça signifie « accorder des bénédictions », comme dans, par exemple, « Dieu bénit Abraham ». Et puis d'autre part, comme ici, un peu dans l'autre sens, ça veut dire « remercier pour des bénédictions reçues ». Par exemple, dans « David bénit l'Éternel ». Alors, dans notre verset, « que le nom de l'Éternel soit béni », ça veut dire « remercions le Seigneur pour la grandeur et pour la qualité de ses œuvres pour nous ». Et ça, pas seulement une fois de temps en temps, mais réellement tous les jours et à chaque heure de chaque jour. Parce que le Seigneur n'arrêtera jamais de faire des œuvres pour nous. D'ailleurs, regardez le verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. Alors, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ça veut dire, vraiment, pas seulement de temps à autre, mais réellement tous les jours, du matin au soir. Parce que le Seigneur nous envoie sans arrêt ses bénédictions. Et à chaque heure de chaque jour. Et puis aussi, que le nom de l'Éternel soit loué. Ça, c'est un peu, c'est une reprise du verset 1. Hein, c'était déjà au verset 1. Et ça marque la fin de notre première partie. Alors, résumons-nous. Nous louons le Seigneur parce que nous voyons son œuvre se dérouler autour de nous et puis aussi pour nous. Et puis, nous louons le Seigneur parce que nous sommes engagés dans son service. Dans son œuvre. Et encore, nous le louons parce que nous voyons son œuvre, nous voyons que son œuvre nous entraîne. Hein, comme dans les actes des apôtres, un peu le Saint-Esprit qui entraînait les apôtres. Et alors, nous bénissons le Seigneur, nous le remercions pour son souffle qui nous entraîne, dans la fonction qu'il nous a donnée, dans son Église. Alors du coup, dans ces trois premiers versets, eh ben, il y a un appel pour nous. Un appel qui concerne nos temps de louange. Là, nous sommes appelés à plus que simplement bien chanter et avoir des émotions. En fait, à l'intérieur de nous, la louange, ça devrait être aussi un acte de volonté. Pour le dire autrement, le psaume 113 montre que la louange de nos cultes, ça devrait être un service volontaire que nous rendons au Seigneur, au milieu de ceux qui nous entourent. Nous louons le Seigneur parce que nous voulons manifester que nous voyons son œuvre autour de nous et à l'intérieur de nous. Et puis aussi parce que nous voulons dire notre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et puis encore parce que nous voulons proclamer la grandeur du Seigneur. Et nous voyons sa grandeur à travers ses œuvres. Et tout cela, nous le faisons d'une part comme une expression de notre foi, et puis d'autre part comme un témoignage en direction des autres. À l'extérieur de l'Église, mais aussi à l'intérieur de l'Église. Alors voilà pour la première partie. le moteur de notre louange. Et c'est important, parce que c'est ça qui fait que nous avons une louange mûre. Maintenant, la deuxième partie. Qui est ce Dieu que nous louons? Alors, regardons, s'il vous plaît, le verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. L'Éternel est élevé. Alors, bien sûr, la position élevée, c'est une position de majesté, et même plus. Depuis sa position élevée, Dieu voit tout. Du coup, sa majesté, ce n'est pas seulement la majesté locale, mais c'est vraiment la majesté universelle. Et puis, au-dessus de toutes les nations, ça veut dire l'Éternel règne sur toutes les nations, y compris sur Israël. Devant le Seigneur, Israël n'est pas au-dessus des autres peuples. La différence, elle n'est pas là. Aux yeux du Seigneur, Israël a une fonction spéciale au milieu de tous les peuples. Ça, on en a déjà parlé au verset 1. Mais ici, ça va plus loin. Regardez. Sa gloire est au-dessus des cieux. En hébreu, le verbe d'où est tiré le mot gloire, eh bien, il signifie être lourd, pesant. Et cette gloire, eh bien, c'est le respect du Seigneur qui s'impose de lui-même. De plus, sa gloire est au-dessus des cieux. Ça, c'est la hauteur suprême. Du coup, ce verset appelle Israël à voir le Seigneur bien au-dessus de lui, et puis aussi à proclamer à toutes les nations que le Seigneur est digne d'être glorifié par chacune d'elles, parce qu'il est bien au-dessus de chacune d'elles aussi. Du coup, depuis les cieux, la gloire de l'Éternel, le respect de l'Éternel, et puis son renom, si je puis dire, s'impose à toute la création. Regardons, s'il vous plaît, justement le verset 5. Je lis. « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. » Alors, qui est semblable? Ici, poser la question, en fait, c'est déjà répondre par la négative. Personne n'est semblable à Dieu. Personne n'est aussi grand, aussi glorieux, et avec autant de majesté. Lui seul est au-dessus de tous. De sa position élevée, lui seul voit tout et lui seul peut gouverner absolument. Il s'élève très haut pour siéger. Alors au verset 4, on avait « il est élevé ». Ça c'était pour marquer la majesté de Dieu, si on peut dire. Et maintenant, on a « il s'élève ». Mais si en français, on a le même verbe, eh bien, en hébreu, ce n'est pas le cas. En hébreu, ce verbe qui est utilisé ici, il veut dire « Dieu s'élève pour faire quelque chose ». C'est comme quelqu'un qui est assis, il se lève et il se met en activité de ce genre-là. Dieu s'élève pour faire quelque chose. Et rien ni personne ne pourra s'opposer à son action, tellement il va le faire avec puissance et autorité. Et regardez, il s'élève très haut pour siéger. Eh bien, ce verbe, siéger, il fait référence au tribunal. C'est le tribunal de Dieu. Il est le juge suprême. Et lorsqu'il décide quelque chose, et lorsqu'il fait quelque chose, personne ne peut lui résister. Regardons justement le verset 6. « Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Il s'abaisse. Depuis sa position élevée, quelque part, le Seigneur s'écarte de son ciel pour prendre soin de nous. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Ça veut dire, Dieu prend acte de tout ce qui se passe dans la création, non seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. C'est-à-dire, dans cet espace global à l'intérieur duquel notre environnement direct se trouve. En fait, Dieu prend soin de nous tous azimuts, si on peut dire. Du coup, là aussi, dans ces trois versets, il y a un appel pour nous, un peu comme en parallèle à Israël. Nous sommes appelés à voir le Seigneur bien au-dessus de nous et à l'accueillir quand il s'abaisse dans notre direction pour prendre soin de nous. C'est lui qui décide et qui agit avec autorité depuis son trône de justice. Voilà qui est le Seigneur vers lequel nous levons les yeux quand nous le louons. Il est digne d'être glorifié au-dessus de toutes les nations, et cela nous l'annonçons à nos contemporains. Alors voilà pour la deuxième partie. Et à présent, notre troisième partie de ce psaume. Elle nous montre comment le Seigneur se manifeste, comment il nous montre qui il est et comment il manifeste son autorité et sa justice. Alors regardez le verset 7. Je lis, « De la poussière, il redresse le faible. Du fumier, il redresse le pauvre. » Alors, ce mot « faible », il désigne celui qui est écrasé par sa situation de vie. Il est par terre et il n'a même plus la force de se relever. Il est comme collé à la poussière. La poussière, c'est intéressant. Cette poussière qui, dans la Bible, symbolise ce qui est sans forme et sans vie, et même peut-être quelque part, le mal à l'état pur, on pourrait dire. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être, dans la Genèse, Dieu condamne le serpent à manger la poussière tous les jours de sa vie. Alors voilà pourquoi, quand il délivre le faible de sa situation de mort, le Seigneur, il le redresse, et c'est fort. Littéralement, en hébreu, ce verbe, c'est « il le fait se lever ». Autrement dit, Dieu lui donne la force intérieure de se relever lui-même. Et puis, du fumier, il relève le pauvre. Le pauvre, c'est celui qui est dans le besoin. Et le fumier, eh bien, ça symbolise une situation de manque extrême. C'est là où on jette tout ce qu'on ne peut plus utiliser. Voilà. Mais allons même un cran plus loin. On va dire, de la poussière et du sans-forme, Dieu fait se lever celui qui a dû rester courbé dans le rien. Ça veut dire celui qui ne peut que se considérer comme rien et qui est convaincu qu'il ne peut rien faire, qui va être accepté par les autres. Et puis deux, du fumier et du domaine du méprisable, Dieu redonne fierté à celui qui en manque cruellement. Et c'est OK d'aller jusque-là. Regardez le verset 8. Tout cela pour les faire siéger avec les notables de son peuple. Ça veut dire, celui qui a dû rester courbé dans le rien, de même que celui qui manque cruellement de fierté, eh bien, Dieu les amène près de lui et il leur donne, intéressant, une position analogue à la sienne. Parce que ce verbe « siéger » que nous avons ici, c'est le même que celui que nous avons vu au verset 5 pour exprimer la position de Dieu en tant que juge suprême. Et en hébreu, c'est aussi le cas, c'est le même verbe. C'est-à-dire, aux faibles et aux pauvres, Dieu leur donne une position qui est vraiment quelque chose, au contraire de la poussière qui est rien, et puis qui est une position d'influence, au contraire du fumier qui est une position méprisée. Et encore plus, Dieu les place parmi les notables. Et regardez le verset 9. Je lis. Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, comme une mère joyeuse au milieu de ses fils. Louez l'Éternel. Ah, stérile. En hébreu, ce mot, il vient d'un verbe qui veut dire déraciné, arraché. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, celle qui était stérile, elle était comme arrachée de la société, elle était comme déracinée de sa communauté de vie. Et elle ne pouvait pas participer au déploiement de la vitalité de son peuple. Elle ne pouvait pas engendrer, et c'était pour elle une tristesse totale. Et c'est exactement là que le Seigneur intervient. Il en fait une mère, et puis en plus une mère joyeuse. Cette femme, elle était déracinée. Et le Seigneur l'enracine, on peut dire, dans la racine de la société. Il l'a fait habiter dans une maison. Et même plus, il la met à la source d'une maisonnée. Parce que c'est elle qui va engendrer la maisonnée. D'ailleurs, très intéressant, regardez le verbe. Le Seigneur l'a fait habiter. Eh bien, en hébreu, c'est de nouveau le même verbe que tout à l'heure. Ce verbe « siéger », qui exprimait l'autorité de Dieu. Du coup, ici, Dieu l'a fait asseoir au centre de la société, dans un lieu d'où personne ne pourra la déloger. Alors voilà pour notre troisième partie. Ce que le Seigneur fait pour manifester qui il est. Et là aussi, il y a un appel pour nous. De sa position très élevée, Dieu fait quelque chose de très grand. Il intervient pour manifester son amour et son soutien à ceux qui lui appartiennent. Et cet appel pour nous, c'est de remarquer les interventions du Seigneur au milieu de nous quand le Seigneur relève ceux qui sont écrasés. Et puis, louer le Seigneur aussi pour ces œuvres-là. Alors, je conclue. Le psaume 113 nous montre que quand nous louons le Seigneur dans le culte, nous sommes vraiment engagés à son service. D'abord, dans la louange, nous levons les yeux vers Dieu, qui est notre Père. Nous proclamons qu'il est le juge suprême et qu'il manifeste sa puissance et son autorité et sa justice. Nous proclamons qu'il intervient en faveur de ceux qui lui appartiennent pour redonner une place à celui qui a été, disons, brisé par ses circonstances de vie. Et que nous voyons le Seigneur guérir les circonstances de vie de l'un de nos frères ou de l'une de nos sœurs, nous louons le Seigneur pour son intervention parmi nous. Ensuite, dans la louange, nous le regardons, lui, le Seigneur. Il est élevé d'une majesté totale au-dessus de tous, de toutes les nations. Et il le manifeste. Et par notre louange, eh bien, nous affirmons cela à nos contemporains. Nous le faisons d'une part comme expression de notre foi, et nous le faisons d'autre part comme témoignage en direction des autres. Et enfin, dans la louange, nous nous souvenons de toute l'œuvre du Seigneur et nous attestons que par son esprit, il nous entraîne dans son service. Et nous voulons le louer pour tout ce qu'il fait. Ça, c'est le moteur de notre louange. Et c'est important, hein, ça fait que nous avons une louange mûre. Alors, au bout du compte, la louange aussi, c'est un cheminement de maturation. Dans ce domaine aussi, Jésus nous accompagne. Il nous montre le chemin et il ouvre les portes. Et dans ce domaine aussi, nous pouvons lui demander de nous diriger et de nous fortifier. Nous allons prier.